chemin de la connaissance. La sémiotique dans la cuisine du sens, par Jacques Meunier. Aujourd'hui, une sémantique de l'action avec Yvan Darro-Harris. Considérer les gestes et les attitudes non verbales comme des signes, le projet en était formé dès la naissance de la sémiotique, puisque Saussure lui-même avait inclus les signes de politesse dans la définition et le programme de la nouvelle science. Mais c'est Grémas qui, le premier, applique les modèles sémiotiques narratifs pour étudier les interactions au cours d'une séance de psychodrame analytique. Cette approche sémiotique du comportement, qu'on appelle aussi sémiotique de l'action, permet notamment d'éclairer des phénomènes restés mystérieux pour les spécialistes, psychologues ou éthologues. Yvan Darro-Harris.
Oui, j'ai repris ce que le psychanalyste René Dyatkin appelait la folie des mères, ce qui déjà donne une idée de ce comportement tout à fait étonnant que la mère, dans toutes les cultures, adresse au tout jeune enfant. Il y a des vocalisations, il y a du langage, il y a des regards, il y a des jeux proxémiques, c'est-à-dire des jeux qui consistent à s'approcher, à s'éloigner excessivement du bébé, il y a des jeux de disparition, réapparition, que nous retrouvons un petit peu partout. Et effectivement, les éthologues sont un peu gênés parce que ces comportements sont transgressifs par rapport au comportement qui est attendu ultérieurement de l'enfant et de l'adolescent, et a fortiori de l'adulte. Et j'essaie de montrer que ces comportements ont une cohérence parce que ce que la mère essaie de faire advenir chez l'enfant, c'est le futur sujet de l'énonciation verbale, ce qui n'est pas un objectif des éthologues. Donc elle essaie de construire ce qu'on pourrait appeler le jeu, J-E, le jeu corporel, substantiel de l'enfant, et elle lui enseigne au fond ce que c'est que la présence du futur sujet de l'énonciation verbale. Et ce n'est que beaucoup plus tard que sur ce jeu corporel va jaillir le jeu formel, c'est-à-dire que l'enfant va prononcer effectivement le jeu. Mais on peut montrer que ce travail a commencé bien avant, et que tous ces comportements apparemment transgressifs, excessifs...
Vous pensez à quoi, oui, exactement?
Oui, je pense par exemple au travail autour des mimiques. Les mimiques sont très prolongées, très caricaturales. D'ailleurs, dans les processus expérimentaux des éthologues, les mères ne supportent pas de se voir en train d'adresser les mimiques aux enfants. Et d'ailleurs, elles ne peuvent pas reproduire dans des conditions artificielles ces mimiques. Et on peut montrer que ces différentes mimiques, comme la mimique de sollicitude, le sourire, ou ce que les anglo-saxons appellent le still face, c'est-à-dire le visage neutre, sont des mimiques qui enseignent à l'enfant comment commencer une communication, comment l'entretenir, comment la terminer ou comment l'éviter. Donc je vois, je constate que ce qu'elle enseigne ici avec ce système des mimiques, c'est ce que Jacobson, un linguiste historique des années 60-70, appelait la fonction phatique. Ce qu'elle enseigne à l'enfant, c'est effectivement ce qui est le plus important. En fait, dans le langage non verbal et verbal, c'est-à-dire la prise de contact et son maintien avec l'autre, bien avant que l'enfant soit capable, évidemment, d'émettre le moindre énoncé linguistique.
Alors ça, c'est la sémiotique qui permet à la fois de l'observer et de l'analyser.
Oui, c'est la sémiotique, effectivement, qui, avec son point de vue original sur ces faits, encore une fois avérés, établis par les éthologues, permet de leur donner un tout autre sens. Et il y a, je crois, deux résultats de cette observation, à la fois une compréhension de l'acquisition normale du langage chez l'enfant, mais aussi nous avons là un éclairage sur les troubles les plus graves de l'acquisition du langage. J'ai longtemps travaillé dans l'équipe du professeur Dominique Sauvage du CHU Bretonneau de Tours sur les signes précoces de l'autisme. Ce qui caractérise l'autisme, effectivement, c'est la non-construction de la fonction phatique du langage, de la strate phatique du langage, ce qui produit donc un trouble très très impressionnant du contact et donc de l'acquisition du langage chez l'autiste.
Est-ce que vous pouvez définir le mot fatigue?
Oui, le mot fatigue renvoie effectivement, comme disait Jacobson, à une fonction du langage, et il avait emprunté ce mot à l'ethnologue Malinowski. La dimension fatigue du langage concerne tout ce qui permet de prendre contact avec l'autre et de maintenir la communication. Je crois que le terme fatigue le plus clair, c'est par exemple le terme allô quand on décroche le téléphone, et qui est un indice fatigue, purement fatigue, de volonté d'entrer en communication avec l'autre.
Vanel,
oui. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère.
Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup. Et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui fauchée. Des ronds, quoi, je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je ne les ai plus trouvés. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé, parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils... Je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, les petites affaires insignifiantes. Alors, aussi, genre quand il y avait des scènes à la maison, je pense
Alors, Yvan Darrow, les odeurs sont également une forme d'expression que vous étudiez en tant que sémioticien.
Oui, j'ai été très intéressé par les travaux de Benoît Châle et de Richard Porter, une équipe donc anglo-française travaillant sur la reconnaissance olfactive très précoce, beaucoup plus précoce qu'on ne le croyait, entre la mère et l'enfant. Et ce qui m'intéresse effectivement dans l'olfaction, c'est qu'au fond, c'est le premier canal sensoriel qui permet le contact entre le bébé et la mère. Donc pour moi, c'est la première manifestation de ce que j'appelle la strate fatique, qui va ensuite servir de fondement au langage. En effet, l'enfant, expérimentalement, reconnaît très tôt, dans les premiers jours, la signature olfactive de la maman. Et la mère reconnaît aussi l'identité olfactive du bébé. Le père aussi, de manière peut-être un petit peu moins évidente statistiquement. Mais il y a une reconnaissance très précoce. Et au fond, il est assez fascinant de se dire que la première représentation que nous avons de notre premier partenaire, c'est en quelque sorte une carte olfactive de l'autre, puisque le bébé est sensible à l'odeur qui provient de la région du sein de la mère, mais aussi de son cou et de ses aisselles. Il y a donc une première géographie du corps maternel qui va engendrer une représentation de l'autre.
Et alors, est-ce que ce type d'échange peut se développer et s'articuler comme un langage ?
Oui, je pense que c'est en fait ce qui permet l'édification du langage. Ce sont les fondations, les fondements du langage, puisque sur la strate de l'olfaction va très vite se construire la strate de l'audition, puis de la vision. Je crois que ce qui caractérise notre espèce, c'est que nous sommes des êtres olfactifs. Bien avant la naissance, l'olfaction est en parfait état de marche, si j'ose dire, quelques mois avant la naissance. En revanche, la vision n'est véritablement terminée, par exemple l'accommodation, que vers 3 ans. Donc ce qui me paraît important, c'est de travailler sur cet échelonnement des modalités sensorielles pour construire ce qui régit et régule le contact entre les partenaires. Donc ce n'est pas véritablement un langage, mais c'est ce qui autorise la construction du langage oral puis écrit.
Et donc, à ce stade, déjà, le sémioticien peut suivre les méandres et les développements du sens.
Oui, absolument. Et je voudrais revenir justement peut-être un peu sur le dialogue mère-bébé. Les éthologues ont remarqué, en travaillant sur les dialogues entre la mère et le bébé, ont remarqué une anomalie ou une curiosité, à savoir que la mère s'adressait à son enfant. Par exemple, elle va lui dire au moment de l'alimentation « Est-ce que tu veux encore de ton biberon ?» Et ensuite, elle ménage une pause assez longue pour reprendre et dire des choses aussi étonnantes que « Ah, tu aurais pu le dire un peu plus tôt, que tu n'en voulais plus, maman aurait gagné du temps. » En travaillant sur ces mini-dialogues, on s'aperçoit que la pause qui a été ménagée par la mère est l'emplacement de la future réponse de l'enfant. C'est-à-dire que le sémioticien verra dans ces dialogues maternels où l'enfant ne peut pas encore prendre la parole, il y verra justement l'apparition de ce à quoi peut-être le sémioticien tient le plus, c'est-à-dire déjà une organisation narrative. En effet, la mère produit ce que j'ai appelé une sanction paradoxale, c'est-à-dire que dans l'énoncé qui termine ce dialogue, elle fait comme si l'enfant avait parlé. C'est-à-dire que ce dialogue, malgré l'état encore d'aphasie de l'enfant, est un dialogue achevé. Et on pourrait montrer que cette sanction paradoxale est la condition pour que le langage se produise ultérieurement.
Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein. Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot.
T'en ai pas, monsieur.
Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami.
Monsieur, c'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Je crois que l'adolescence, effectivement, est un moment tout à fait exceptionnel dans l'existence humaine. C'est un moment de révolution corporelle. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais plus. Et que cette révolution corporelle, dans la perspective d'une sémiotique qui considère justement le corps comme l'instance de base qui produit la signification, cette révolution corporelle va produire des perturbations, des modifications, tant au niveau des actions, des comportements-actions, qu'au niveau des discours. Et je crois que l'adolescence, d'ailleurs, est une grande période où on hésite entre l'action, l'acte, voire le passage à l'acte, et la mise en discours. Alors, pour une raison, justement, tout à fait importante, c'est que l'adolescence est un moment d'envahissement d'émotions, d'affects et de sentiments très intenses et tout à fait inédits, pour lesquels, au fond, l'adolescent ne possède pas de verbalisation, de lexicalisation
possible.
Il
n'y a pas de mots pour ça.
Il n'y a pas de mots. Je regardais récemment un grand dictionnaire consacré aux langages adolescents, des adolescents des banlieues. C'est le dictionnaire de notre collègue Jean-Pierre Goudaillé, qui dirige le département d'argotologie de la Sorbonne. Et on s'aperçoit que ce gros dictionnaire de plusieurs centaines de pages ne contient que 3 ou 4 termes ou expressions pour dire les affects. Il y a là une lacune extraordinaire. Et donc, comment dire l'affectif, l'émotion, les passions, comme on dit en sémiotique? Eh bien, on est tenté, bien entendu, de trouver la voie du non-verbal, la voie du comportement, et quelquefois même la voie de la violence, tellement il y a nécessité, en fait, que ce mouvement interne, ce bouillonnement interne se disent et passent de l'intérieur à l'extérieur.
Yvan Darrow, vous avez justement également étudié en tant que sémiologue ces manifestations ou cette verbalisation de la violence des adolescents.
Oui, j'essaie de rendre compte de cette violence, de ces passages à l'acte, parce que je crois vraiment, à la fois pour prévenir les conduites violentes des adolescents, mais aussi pour les sanctionner. Je crois qu'il faut en comprendre le sens, absolument. Et donc, j'ai travaillé sur ces violences, et c'est vrai, en tant que psychothérapeute pendant quelques 10 années dans un hôpital aussi, j'ai essayé de comprendre de manière prioritaire les actes d'auto-violence. Et je crois que cela s'explique parce que chez l'adolescent, il y a la nécessité donc de perdre le corps et le psychisme d'enfant. Et donc il passe par une période de grande vulnérabilité où il s'est séparé d'un corps et d'un psychisme dans lequel il habitait au fond très bien, et il va devoir aller vers une autre identité. Et donc il y a chez l'adolescent ce que j'appelle une quête d'auto-engendrement. Il faut se faire naître de nouveau. Et évidemment, comme on le sait, il va amener à rejeter plus ou moins l'autorité parentale et même l'affection parentale. C'est-à-dire que avec le corps d'enfant, les parents de l'enfant aussi, il faut s'en séparer. Bon. Et là, dans cette tentative d'auto-engendrement, il va avoir au fond deux grands choix. Soit il va vers les conduites à risque, parce que prendre un risque éventuellement mortel, c'est effectivement, d'une certaine manière, symboliquement, se faire naître de nouveau et quitter une existence antérieure, et jusqu'aux tentatives de suicide, bien entendu. Et de l'autre côté, il y a une autre voie sémiotique, qui est en fait la grande voie de résolution qu'il faut bien que les adolescents découvrent, c'est la voie du langage. Et je suis toujours tout à fait fasciné par le fait que c'est à l'adolescence qu'on découvre l'écriture, et en particulier l'écriture intime. Les écrits à l'adolescent, je crois que l'adolescence est une grande découverte, une période de grande découverte de l'écriture. Je ne pense pas que l'enfant découvre l'écriture, il apprend à écrire, mais il ne découvre le sens de l'écriture que très très postérieurement. Et j'ai essayé de montrer que dans l'écriture, en particulier dans l'écrit intime, dans l'écrit autobiographique, on a là une manière symbolique de se faire naître. Mais si, par exemple, on prend l'exemple de la violence verbale, de l'injure qui inquiète beaucoup parents et enseignants, on s'aperçoit que l'injure à l'adolescence ne peut être comprise que parce que c'est un espace privilégié, parce que c'est un espace où on a à la fois du langage et de l'acte. L'injure est un acte de langage. Et c'est tout à fait fascinant pour l'adolescent qui est en permanence obligé de choisir entre l'acte et le langage, de s'approprier un lieu sémiotique où le langage se fait acte. Injurier l'autre est un acte, d'ailleurs. Il découvre, avec quelquefois un petit peu de surprise, mais beaucoup de satisfaction, au fond, que l'injure peut être un délit. Ce qui est bien la preuve que c'est un acte. Et on trouve, j'ai fait une petite étude sur l'injure à l'adolescence, s'il y a peu de mots pour exprimer les émotions et les sentiments, il y a un corpus, comme on dit en linguistique, un ensemble d'injures très considérable chez les adolescents.
Qui se renouvelle d'ailleurs.
Qui se renouvelle et dont le plus injurieux d'entre eux laisse rêveur, puisque c'est le terme de bouffon qui véritablement est désémantisé aux yeux de l'adulte, mais qui chez l'adolescent est l'injure suprême. Donc ils ont une hiérarchie d'injures et effectivement un goût pour l'injure verbale qui est tout de même moins grave que l'agression physique caractérisée. Et il y a entre les adolescents au fond des échanges d'injures qui peut-être nous ramènerait vers mutatis mutandis, vers les échanges homériques d'injures avant la bataille et ici, si possible, pour éviter la bataille.
Yvan Darrot, vous avez travaillé avec des adolescents aussi dans le milieu scolaire. Est-ce que lorsque, en tant que sémiologue, vous leur montrez ces réalités, vous leur tendez ce miroir en quelque sorte, les adolescents en font leur bénéfice? Comment se voient-ils à travers ce miroir?
Je crois que les adolescents peuvent tout à fait entendre ce qu'on leur renvoie du sens de leurs actions, de leurs comportements et de leurs discours. Et j'ai eu à la fois beaucoup d'adolescents en psychothérapie à l'hôpital et j'ai rencontré un certain nombre d'adolescents en milieu scolaire. Ils sont quelquefois d'une très grande lucidité. En particulier, j'insiste beaucoup sur leur façon, par exemple, de définir à leurs yeux ce qu'est un bon enseignant. J'ai été frappé par la justesse de leur définition et en particulier le fait qu'ils mettent immédiatement en avant le fait que cet enseignant est un enseignant qui est respectueux par rapport à eux. C'est-à-dire, au fond, ce que les adolescents nous disent, c'est qu'il faut gagner, mériter, restaurer, entretenir cette relation de respect mutuel qui est au fondement de l'autorité morale. Alors c'est là-dessus que le sémioticien, effectivement, peut travailler, puisque le respect est au fond une passion. Hein, il nous demande, ces adolescents, il demande aux enseignants, et peut-être aussi aux parents, que ses parents et ses enseignants soient dans un état passionnel continu de respect par rapport à eux. Là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que dans les textes les plus officiels, l'enseignant est désigné comme devant être en permanence dans le respect. Et la plus grave faute professionnelle pour un enseignant, c'est d'être dans le mépris ou l'indifférence. Donc il y aurait toute une sémiotique des passions à construire. Il est tout à fait surprenant, et je crois qu'il faut le redire aujourd'hui, à un moment on reproche beaucoup de choses aux adolescents, que les adolescents attendent.